Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 13 juin 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Résistance, seul moyen de vaincre les États-Unis, a souligné le leader de la révolution islamique lors de l'audience accordée au président vénézuélien. La 42e brigade des unités de mobilisation populaire, Ashtal Shabi, a déjoué un complot criminel du groupe terroriste Daesh pour cibler des civils dans le sud du gouvernorat de Saladin. Et législative française 2022, le taux élevé d'abstention, la défaite de l'alliance Macron. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'Iran et le Venezuela avaient réussi à résister aux fortes pressions exercées par les États-Unis. L'expérience réussie des deux pays a montré que la résistance est le seul moyen de contrer ces pressions, a déclaré le leader de la révolution islamique lors d'une rencontre avec le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite officielle à Téhéran. L'Ayatollah Khamenei a salué la victoire du gouvernement et du peuple vénézuélien dans une lutte acharnée contre les États-Unis et la guerre hybride et totale qu'ils ont menée contre Caracas et a déclaré « Votre résistance et celle du peuple vénézuélien sont précieuses, car elles renforcent la valeur, le statut et les mérites d'une nation et d'un pays ainsi que ceux de ses dirigeants. » Saluant les progrès réalisés et les initiatives développées par l'Iran au cours de ces dernières années dans divers secteurs scientifiques et technologiques, le leader de la révolution islamique a déclaré que des mesures aussi importantes ont été prises dans des circonstances telles que les sanctions et les pressions les plus lourdes et sans précédent qui ont été imposées à la nation iranienne, que les Américains eux-mêmes appelaient « pression maximale ». Le leader de la révolution islamique s'est ensuite félicité de la signature d'un accord de partenariat de 20 ans entre Téhéran et Caracas visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines et a souligné que les gouvernements iraniens et vénézuéliens devaient encore renforcer leurs relations. Afin d'avoir une coopération à long terme, il est nécessaire de poursuivre et de mettre en œuvre régulièrement des accords déjà conclus, a souligné l'Ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique a également salué la position anti-sioniste Maduro, la qualifiant de très authentique et courageuse. Au cours de la réunion, à laquelle assistait également le président iranien Ebrahim Raisi, le président vénézuélien a remercié le soutien de l'Iran au peuple de son pays dans sa dure bataille contre les pressions américaines. Il a évoqué la situation économique désastreuse à laquelle est confronté ces dernières années son pays et a déclaré que les États-Unis avaient entamé une guerre d'usure progressive et une guerre hybride contre Caracas. Cependant, le Venezuela a réussi à affronter pleinement l'agression américaine par la résistance et à tirer parti des opportunités développées à la suite des sanctions contre le pays, a déclaré Maduro, ajoutant que le Venezuela se trouve maintenant dans de meilleures conditions par rapport aux années précédentes. Il a également noté que le Venezuela est en train d'élaborer une feuille de route précise pour approfondir la coopération avec l'Iran dans divers domaines, notamment la science et la technologie. La 42e brigade des unités de mobilisation populaire Ashtal Shaabi d'Irak a déjoué le 22 juin un complot criminel du groupe terroriste Daesh pour cibler des civils dans le sud du gouvernorat de Salahuddin. La brigade a trouvé deux engins explosifs placés dans le district de Sayed Gharib, près de la ville de Samara, destinés à cibler les habitants du district avant que les militaires ne les démantèlent en toute sécurité. Le commandant des Ashtal Shaabi de l'opération Samara a mis en garde depuis le 3 mai contre les tentatives occasionnelles de Daesh d'atteindre des lieux saints dans la ville de la province de Salahuddin et a appelé les forces sous son commandement à être en pleine préparation. Cela intervient alors qu'un convoi logistique de l'armée américaine a été pris pour cible à Salahuddin dans le nord de l'Irak. Une source de sécurité irakienne a déclaré qu'une bombe en bordure de route a explosé dimanche après-midi sur la route d'un convoi logistique de la coalition américaine dans la province de Salahuddin. La source sécuritaire irakienne a souligné que l'explosion n'avait fait aucune victime. C'est dans ce contexte que deux soldats turcs ont été tués dans une opération antiterroriste en cours dans le nord de l'Irak, a annoncé aussi dimanche le ministère de la Défense nationale. La Turquie viole depuis longtemps l'intégrité territoriale du nord de l'Irak en prétendant combattre le PKK et en menant des opérations dites de contre-terrorisme. Des sources d'information ont rapporté samedi 11 juin que les forces de défense saoudiennes et françaises ont lancé un exercice militaire conjoint intitulé Santol 2 dans le nord-ouest du royaume. Selon ces sources, les forces terrestres saoudiennes et les forces armées françaises se sont entraînées ensemble pour augmenter leur préparation au combat et acquérir plus d'expérience sur le terrain. Le commandant adjoint de la zone nord-ouest pour les affaires opérationnelles, le général de division Khalid Ben Mohamed Al-Hashrami, a déclaré que l'exercice de plusieurs jours avait pour but de renforcer les liens de coopération et d'action conjointe et d'échanger des expériences dans les domaines militaires, ce qui contribue à élever la capacité de combat militaire et une coordination accrue entre les forces armées saoudiennes et françaises. Les équipes auraient utilisé à la fois des munitions réelles et des simulateurs lors de l'exercice. Selon le rapport annuel sur les exportations d'armes présenté par le ministère français de la Défense, le régime saoudien a été le premier client d'armes françaises en 2020. La vente d'armes françaises à l'Arabie saoudite intervient alors que le pays continue de mener des frappes aériennes et des bombardements contre le peuple opprimé du Yémen depuis 7 ans. La France est devenue le 3e exportateur mondial d'armes en 2020. Une grande partie des armes de la France sont exportées vers des pays accusés de crimes de guerre, de violation des droits de l'homme et du droit international. Le partenariat de la France avec des pays comme l'Arabie saoudite et surtout les Émirats arabes unis est un exemple flagrant de la violation du droit international depuis des années pour poursuivre cette course aux armements. En France, avec les résultats préliminaires du premier tour des élections législatives annoncées dimanche soir 12 juin, la possibilité que le parti au pouvoir perde sa majorité absolue s'est accrue. Dans cette compétition, une partie de la coalition de gauche et verte, qui est pratiquement dirigée par Mélenchon, s'appelle la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale, NUP. De l'autre côté se trouve l'Alliance Macron, qui s'appelle Ensemble. Selon les résultats préliminaires du premier tour, environ 53% des électeurs éligibles se sont retirés de l'élection. Ainsi, la participation des Français risque d'être encore plus faible que lors des élections législatives de 2017. Le second tour des élections de la semaine prochaine déterminera si la coalition dite Ensemble, basée sur le parti au pouvoir et les partisans d'Emmanuel Macron, obtiendra la majorité absolue ou la NUP dominera l'Assemblée nationale. Il est clair qu'à l'issue du second tour des élections, la coalition des partisans de Macron n'atteindra pas la majorité absolue de 289 sièges dans le Parlement français. C'était la première fois dans l'histoire de la Ve République française que le parti pro-présidentiel n'était pas ouvertement en tête à l'issue du premier tour de scrutin parlementaire. Non seulement Macron ne profitera pas de sa victoire, mais il passera son second quinquennat sous menace de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Bien qu'il semble que Macron ne sera plus obligé d'élire un premier ministre de l'opposition, il fait face à de sérieuses difficultés dans la mise en œuvre de ses plans dans les cas où l'approbation parlementaire est nécessaire. Depuis 2002, éclipsé par l'élection présidentielle qui précède de quelques semaines, les élections législatives souffrent d'un désintérêt croissant des Français. En 2017, lors du premier tour des élections législatives, l'abstention avait atteint 51,30%. La Russie a demandé aux États-Unis d'expliquer leurs activités biologiques militaires dans certains anciens pays soviétiques. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dimanche que les États-Unis devaient remplir leurs obligations en vertu de la Convention sur les armes biologiques, CABT, qui est essentielle pour la sécurité internationale. La Russie prévoit de tenir des consultations avec d'autres membres de la CABT au sujet des mesures pour renforcer le contrôle des activités menées par les États-Unis dans des laboratoires biologiques de l'espace post-soviétique, selon Mme Zakharova. Au cours d'une opération militaire spéciale en Ukraine, l'armée russe a découvert que des laboratoires biologiques financés par les États-Unis menaient des recherches sur des virus dangereux, selon le ministère russe de la Défense. La partie russe a à plusieurs reprises exhorté Washington à expliquer à la communauté internationale l'objectif de ces établissements. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une bombe nucléaire iranienne est mieux qu'une guerre contre l'Iran, dit CNN. Biden a épuisé toutes ses cartouches face à l'Iran, qui va droit vers la bombe, mais il y a pire qu'un Iran nucléaire. Le pire serait le fait d'entrer en guerre contre l'Iran, écrit CNN qui ajoute. Alors que les options de Biden s'épuisent, l'Iran est plus proche que jamais de la bombe nucléaire. Les tensions de longue date sur les capacités nucléaires de l'Iran ont peut-être atteint un point de non-retour cette semaine, poussant le Moyen-Orient dans des eaux inconnues. Téhéran a accéléré l'enrichissement d'uranium à un rythme jamais vu depuis la signature en 2015 d'un accord historique qui avait convaincu l'Iran de limiter l'enrichissement d'uranium en échange d'un allègement des sanctions avant que l'ancien président américain Donald Trump ne se retire de l'accord en 2018. Lorsque Trump s'est retiré de l'accord nucléaire en 2018, il a décidé de réimposer des sanctions punitives et écrasantes pour affecter l'économie iranienne. En fait, l'administration américaine savait à l'époque que Téhéran était toujours attaché à l'accord. Mais Trump, qui était contre de nombreuses politiques de l'ère Obama, a prétendu que la République islamique d'Iran continue sa politique interventionniste au Moyen-Orient à l'appui de ses forces locales et qu'il a tenté de démanteler l'accord nucléaire, indique le rapport de CNN. Le président Joe Biden, qui était un farouche opposant à la soi-disant campagne de pression maximale de Trump contre l'Iran, a relancé les pourparlers lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais la politique de Biden n'a jusqu'à présent été efficace. Étant donné que les États-Unis ont déjà imposé des sanctions à l'Iran sous l'administration Trump, les options de Biden sur le programme nucléaire iranien sont terminées. Les sanctions ont porté un coup dur à l'économie iranienne, certes, mais ne l'ont pas anéanti. Et il s'avère que l'Iran deviendrait progressivement résistant aux sanctions économiques. L'assassinat par Israël des responsables iraniens de haut rang ces dernières années, y compris un scientifique nucléaire, n'a pas non plus réussi à ralentir l'enrichissement d'uranium dans ce pays, reconnaît CNN, qui revient au bout de compte sur la perspective d'un clash militaire avec, en perspective, de supposées frappes contre les installations nucléaires iraniennes et de mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une action éventuelle pour les États-Unis. La guerre contre l'Iran ne peut détruire son programme nucléaire, mais elle peut ouvrir les portes de l'enfer pour toute la région et pour les Américains dans la région.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition du débat de jour. Face aux agissements anti-iraniens de l'AIEA, la République islamique d'Iran riposte. En effet, c'était le lundi 6 juin lors d'un tweet que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait déclaré que si les pays à l'origine de la résolution anti-iranienne continuaient d'adopter une approche basée sur des menaces, c'est elles qui seront à blâmer pour les conséquences de cette approche. Mais avant ce tweet, Hossein Amir Abdollahian s'était entretenu au téléphone avec Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et avait insisté sur le fait que toute démarche politique des États-Unis et des trois pays européens rencontrerait sans aucun doute une réponse imminente, efficace et appropriée de l'Iran. Mais décidément, l'Union européenne, la partie occidentale, a décidé une fois de plus de faire preuve de mauvaise foi, puisque la résolution anti-iranienne a été adoptée mercredi soir avec 30 votes pour, 2 contre et 3 abstentions. En réponse, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé son intention d'éteindre un certain nombre de caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. En effet, au cours des dernières années, l'Iran a toujours fait preuve de bonne foi dans cette affaire et a rempli ses obligations et ses engagements, d'où effectivement l'achèvement d'une grande partie des missions et des inspections de l'Agence en Iran. Mais l'approbation de cette résolution anti-iranienne, qui a été basée sur un rapport hâtif et déséquilibré du directeur de l'agence, mais aussi basée sur des informations fausses et mensongères fournies par le renseignement israélien, pourrait bien sûr affecter le cours des coopérations et des négociations entre l'Iran et l'agence. Mais quelles en seront les conséquences à long terme de cette décision de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre l'Iran? Réponse dans quelques instants avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé sa décision d'éteindre un certain nombre de caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, dont le fonctionnement est jugé au-delà des obligations de l'Iran. L'organisation iranienne a déclaré mercredi 8 juin dans un communiqué le retrait des caméras de surveillance du compteur d'enrichissement en ligne, OLEM, et du débitmètre de l'agence. La République islamique d'Iran a jusqu'à présent mené une coopération étendue avec l'AIEA, mais n'ayant malheureusement pas pris en compte une telle coopération qui découle de la bonne volonté de l'Iran, l'agence ne l'a pas appréciée et l'a plutôt considérée comme un devoir, indique le communiqué. Il a ajouté qu'en conséquence, l'Iran a décidé que le fonctionnement des caméras de surveillance d'enrichissement en ligne et du débitmètre de l'AIEA devrait être arrêté à partir d'aujourd'hui. Les autorités concernées ont reçu l'instruction. Bien sûr, plus de 80% des caméras en place de l'AIEA continueront de fonctionner dans le cadre de l'accord, indique le communiqué. Selon le communiqué, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, s'est présenté aujourd'hui sur un site nucléaire afin de superviser le retrait des caméras. Le lundi 6 juin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dans un tweet « S'il est parti à l'origine de la résolution anti-iranienne à l'Agence internationale de l'énergie atomique, continue d'adopter une approche fondée sur la menace, c'est elles qui seront à blâmer pour les conséquences de cette approche. » Dans ce droit fil, un site web israélien réaffirme que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, prend au sérieux les capacités de renseignement d'Israël en ce qui concerne les activités nucléaires de l'Iran. Dans un article publié mercredi 8 juin par Israel Today, Yoshanan Visser, analyste israélien, a évoqué les positions de Naftali Bennett envers l'Iran et les a qualifiées de différentes par rapport à celles de Benjamin Netanyahou. Bennett est à l'origine d'un changement mineur dans l'approche d'Israël vis-à-vis de l'Iran.
En effet, les négociations pour relancer l'accord de 2015 avaient été reprises entre l'Iran et les parties signataires, mais avaient été suspendues en mars dernier alors qu'une entente était à portée de main. Qu'en sera-t-il alors des négociations nucléaires après cette résolution anti-iranienne ? On en débat avec nos deux invités, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Pierre Dortiguet, politologue depuis Toulouse. Monsieur Michel, je commence avec vous, je vous dis bonjour. Alors dites-nous, quelles seront les conséquences de cette résolution anti-iranienne basée sur des informations et sur un rapport hâtif, bien sûr, et déséquilibré et inexact du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, décidément grossi, se fie beaucoup trop aux informations fournies par le renseignement israélien.
Bonjour à vous, le professeur Dortiguet. Vous savez que moi, j'ai fait beaucoup de débats sur ce sujet. Je suis sceptique depuis le premier jour sur la volonté réelle des Occidentaux de revenir aux accords de Genève. Les prétextes avancés par Donald Trump pour quitter ceux-ci, c'est-à-dire la négociation pour l'Iran, de renégocier son secteur balistique et sa politique de la résistance, ont toujours été soutenus et approuvé par Londres, Paris et Berlin. Depuis le début de cette année, Biden a la réputation de quelqu'un qui est favorable aux accords de Genève, mais on constate que dans tous les grands dossiers de géopolitique internationale, que ce soit l'Iran, l'Europe centrale, la Russie ou encore Taïwan, on constate que Biden marche dans les pas géopolitiques de Trump. Je crois donc que les conséquences, tout simplement, ça va être un abandon définitif des négociations de Genève. Les Occidentaux se sont donné le bon rôle puisqu'ils prétendent dans leur politique systématique de mensonge, ils prétendent que les Iraniens sont opposés, que ce sont eux qui ne respecteraient pas, je l'explique, leurs obligations internationales, alors que c'est les États-Unis qui ont retiré leur signature et ils prétendent toujours, ce qui est de la pure propagande israélienne, que l'Iran voudrait acquérir la bombe atomique. Il faut d'ailleurs voir d'ailleurs la jubilation de la presse israélienne, de Bennett et compagnie, qui constate que les nouvelles démarches de la DIEA qui vont dans le sens des Occidentaux sont considérées comme une victoire par les Israéliens. C'est tout ceci qu'il faut retenir de l'affaire. Comme on dit, ce n'est pas une affaire qui sent très bon.
Je m'adresse à notre deuxième invité, Pierre Dortiguet, depuis Toulouse. Bonjour Pierre Dortiguet, et dites-nous. Alors, dans le cadre du PGAC, l'Iran avait accepté, bien sûr, d'imposer un certain plafond à ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions américaines. Mais les États-Unis se sont retirés unilatéralement en 2018 de cet accord. Comment pourrait-on interpréter cette mauvaise foi du clan occidental face à l'Iran ?
On peut l'interpréter comme étant une crainte quant aux apparences. Crainte, je veux dire, que suscite pour l'Occident ce qu'on peut dire le poids de la propagande israélienne ou son influence en Europe et bien sûr aux États-Unis. Je crois que l'Occident, si je puis dire, avance quand même, mais à reculons. J'observe que l'AIEA a quand même, disons, malgré les réticences, les observations tout à fait justifiées iraniennes, a demandé à ce que l'on poursuive le dialogue, ne veut pas interrompre le dialogue. Et je crois que dans cette affaire-là, ce n'est pas simplement l'Iran qui est soumis à des pressions, c'est l'Occident lui-même qui est soumis à des pressions. Et effectivement, les Israéliens ont raison, bien sûr, de fêter, de jubiler, si je puis dire, après cette décision. Mais je crois qu'il y a autre, quand même, un chemin nécessaire, car le dossier contre l'Iran ne repose sur rien. Donc avec du rien, vous ne pouvez quand même pas bâtir une politique et surtout guider des intérêts. L'Occident, bien sûr, est engagé, comme on le sait, dans la politique que l'on voit aujourd'hui, enfin, sur tous les fronts en Asie, en Afrique et en Europe centrale. Mais il y a quand même des intérêts, je ne dis pas économiques, mais des intérêts de stabilité, des intérêts qui sont... Que l'Occident ne peut pas se permettre quand même d'aller vers un suicide sous prétexte de complaire à des aventuriers. Bien sûr que, aventuriers, je veux dire israéliens, je pense qu'il ne faut pas, disons, désespérer de ces négociations. Monsieur Michel, notre ami Michel, a dit que, bien sûr, l'Occident suivait la voie de Trump. Oui, en effet. Mais je crois que beaucoup regrettent justement la décision de Trump. Et il n'est pas sûr que le réalisme de Biden ne l'emporte pas justement sur un délire, disons, vraiment pitoyable, disons, de l'ancien président.
Merci pour vos explications. Alors, Luc Michel, bien sûr, selon vous et selon beaucoup d'analystes d'ailleurs, l'Occident suit les pas de Trump et des États-Unis. Mais jusqu'où l'Union européenne, les pays occidentaux continueront-ils cet aventurisme pro-USA, Monsieur Michel?
Écoutez, les USA sont dans une poussée de militarisme et de confrontation mondiale. Dans tous les grands dossiers mondiaux, ils cherchent systématiquement la confrontation. Confrontation avec la Russie à propos de l'Ukraine, mais qui est une confrontation globale avec l'Orient. Confrontation avec la Chine à Taïwan, où Biden, reprenant la politique de Trump d'ailleurs là aussi, jette littéralement de l'huile sur le feu. Confrontation au Proche-Orient. Vous savez que par rapport à l'Iran, les Israéliens qui anticipent un refus du renouvellement des accords de Vienne, sont en train de faire des manœuvres dans lesquelles ils répètent des frappes de haute intensité avec l'appui des Américains contre l'Iran. C'est réellement une volonté de guerre. Je ne crois plus au pacifisme de Biden et je ne crois pas une volonté de revenir à des règles de diplomatie internationale et de négociation. Biden, dans la ligne de Trump, il recherche libéralement la confrontation et la guerre un peu partout.
Pierre d'Ortiguet, il y a quelques jours, en réponse à une question sur le pacte AUKUS, donc ce pacte de sécurité tripartite signé entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait relevé un point assez important. Selon lui, ce pacte, en fait, pourrait faciliter ou augmenter le risque de prolifération nucléaire, puisqu'il y a les États-Unis d'un côté, le Royaume-Uni d'un autre, mais aussi l'Australie, qui a aussi un passé assez négatif en matière de prolifération. Quelle est votre analyse sur cette contradiction?
Eh bien, oui. En fait, il ne s'agit pas de contradiction, disons, pour nous, mais pour eux, il s'agit d'un problème de grande puissance. C'est-à-dire que la définition même dans le monde moderne, au XXIe siècle, de la grande puissance, c'est qu'elle impose des règles, mais, disons, les impose en faisant appel à la morale, disons, contraire. C'est-à-dire que quand ça sert ses intérêts, elle agit, et quand ça sert ses intérêts, elle fait appel pour déconsidérer l'adversaire à des règles morales. Vous voyez, bon, je crois que ça, c'est une contradiction qui est inhérente à notre civilisation depuis, je dis, au XXe, XXIe siècle. Avant aussi, mais c'est très marqué. Je pense que ce genre de politique aboutira à une confrontation malheureuse, je veux dire horrible, ce qu'on appelle une guerre mondiale, bien sûr. On ne peut pas le répéter, mais enfin, chacun l'a en tête. Ça finira très mal. Et le propre des peuples est justement de se mettre à l'abri de cette confrontation qui est portée par une logique. Ce n'est pas une décision arbitraire des dirigeants. Ils sont entraînés par leur propre mouvement, par leur aveuglement, si vous voulez. Voilà. Et je crois que l'Iran doit tenir compte de ce fait, voyez-vous, et ne pas se considérer ces aléas, c'est-à-dire ces hasards, voyez-vous, de négociation, de rupture, de suspension, etc., comme des choses, comme des accidents, comme des irrationalités. C'est vraiment dans la nature même de la lourdeur de ces nations que l'on voit, qui sont enrichies de façon plus ou moins honnête ou équilibrée, disons, et qui sont entraînées elles-mêmes, je dirais, par le poids de leur puissance. C'est ça qui est véritablement la caractéristique, à mon avis, déjà du XXe siècle, qui a vu la guerre de 14, et aujourd'hui, nous sommes évidemment dans le prolongement, et si je puis dire malheureusement, la conclusion, peut-être dans quelques années, de ce vaste mouvement qui est une destruction même de la civilisation.
Mmh. Luc Michel, un mot à dire au sujet de l'AUKUS, ce pacte de sécurité tripartite signé entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni?
C'est-à-dire que jusqu'ici, la stratégie des grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, c'était d'empêcher la dissémination atomique pour garantir justement la stabilité mondiale. Depuis quelques mois, les États-Unis semblent avoir changé de tactique et encourageraient au contraire la dissémination nucléaire pour contrer la Russie et la Chine. On sait qu'une des choses qui a fait intervenir Poutine en Ukraine, c'était l'installation par les États-Unis de laboratoire nucléaire clandestin en Ukraine. La Russie, Moscou, accusant l'Ukraine de vouloir se doter clandestinement de la bombe atomique. Il y a quelques jours, j'ai lu un rapport américain qui conseillait que le meilleur moyen de garantir définitivement l'indépendance de Taïwan par rapport à la Chine, c'était de doter Taïwan de l'arme atomique. C'est ce qui se passe un peu partout. C'est évidemment une politique dangereuse. La technique des États-Unis, c'est de disséminer mondialement l'OTAN. L'OTAN de départ, c'est l'OTAN d'Europe occidentale et méditerranée. Elle est maintenant doublée des deux autres OTAN, l'OTAN du Proche-Orient et l'OTAN du Pacifique, qui est centrée sur l'AUKUS. Il semblerait que les États-Unis envisageraient très bien de surarmer toutes les puissances autour duquel il compte structurer ses OTAN, notamment l'OTAN centrale du Proche-Orient étant Israël, et Israël ne peut pas avoir sa supériorité nucléaire stratégique rompue par l'Iran, et bien entendu, on prévoit, semble-t-il, le Japon, l'Australie et Taïwan comme puissance nucléaire. Ils ont la possibilité, puisque ce sont trois puissances nucléaires civiles et que l'Australie a réellement des capacités d'accéder rapidement à la bombe atomique. Tout cela nous annonce des décennies d'instabilité qui correspondent assez d'ailleurs aux tentations de la géopolitique américaine au XXIe siècle.
Monsieur Tartiguet, comment se fait-il que l'Agence internationale de l'énergie atomique et notamment donc les pays européens se fient très facilement aux informations liées aux renseignements israéliens, alors qu'on sait que le renseignement israélien est rempli de failles? Comment se fait-il que l'Agence se fie sur des rapports hâtifs, déséquilibrés, fausses et mensongères fournis en une grande partie, bien sûr, du régime sioniste?
Israélien, c'est non pas ses capacités, bien sûr, à savoir son efficacité, enfin, sa vérité. Non, il ne s'agit pas de tout cela pour les pays occidentaux, mais simplement d'une menace. Parce que les pays occidentaux ont chez eux-mêmes des conséquences financières, justement, d'une attaque d'Israël, une attaque contre Israël, une méfiance contre Israël. Vous savez que l'entité sioniste est beaucoup plus présente en Europe, comme je le dis, dans les institutions et autres, aux États-Unis aussi. On pourrait dire même que, quand on parle de la colonisation en Palestine, cette Palestine, elle est très vaste. Voyez-vous, elle comprend même l'Allemagne, elle comprend les États-Unis. En fait, il s'agit toujours, comment vous dire, de situations truquées, voyez-vous. L'entité sioniste se présente comme un État faible, alors qu'en réalité, son but n'est pas d'être enraciné quelque part, son but est d'apparaître comme une victime permanente qui en réalité est un chef d'orchestre du désordre international.
Merci pour vos explications. Luc Michel, l'Iran a annoncé avoir pris des mesures de représailles, dont l'installation de centrifugeuses avancées, mais aussi le fait que des caméras de surveillance de l'agence ont été éteintes dans des sites iraniens. Comment interprétez-vous cette situation? Jusqu'où ces tensions pourront monter entre l'Iran et la partie européenne?
L'Iran, c'est mon point de vue, s'est fait rouler dans les accords de Genève. Il a pris une série de mesures pour finalement se retrouver avec des sanctions maintenues. Dès lors, l'Iran ne peut plus perdre la face et nous sommes dans une période maintenant de confrontation entre le bloc occidental et le bloc de l'Est, où à la fois la Russie et l'Iran sont obligés de montrer leurs muscles et de montrer qu'ils tracent des lignes rouges, qu'ils n'accepteront plus d'être franchis. Mais les faits que les caméras ont été éteintes, c'est présenté notamment dans la presse israélienne comme un succès pour les Israéliens, puisqu'ils disent que ça conduit directement à un échec définitif des accords de Genève. On pousse donc l'Iran à la faute.
Pierre Dortiguet, peut-être la dernière question. À votre avis, est-ce que la diplomatie répond-elle dans cette affaire entre l'Iran et la partie occidentale?
Je pense que la diplomatie a un rôle à jouer, qu'elle jouera ce rôle, car il y a à côté des considérations de force et de puissance, il y a quand même aussi la nécessité de la raison et de la logique. Et sans raison et logique, notre monde est technique pas conscient. N'emportera bien sûr sur les fameux fanatiques du désordre organisé.
Je pense qu'il y a eu une panne de connexion avec Pierre Dortiguet, donc le dernier mot avec Luc Michel. Monsieur Michel, on vous écoute.
Oui, il faut souligner que dans toute cette affaire, ce qui est en train d'être démontré, c'est l'extrême mauvais choix des Occidentaux.
Oui.
C'est la même chose dans d'autres dossiers. Le dossier de la pénurie alimentaire mondiale, par exemple, ou le dossier des sanctions contre la Russie, etc. La même chose se passe en Afrique. L'Occident, c'est l'empire de la mauvaise foi et du mensonge. Ce sont des puissances qui font la morale au monde, qui donnent des leçons, mais qui, en réalité, leur signature ne vaut pas plus que le poids du papier sur lequel elles sont apposées. Les États-Unis ne respectent pas leurs obligations internationales. Et les Occidentaux, systématiquement, on le voit maintenant, dans le cas de l'Iran, avec la renégociation de Genève, les Occidentaux n'hésitent pas à manipuler leurs paroles et à manipuler la réalité. Sur la Terre, on sait maintenant qu'on ne peut plus faire confiance à l'Occident. C'est particulièrement vrai en Afrique.
Merci à vous, Luc Michel, géopoliticien, et Pierre Dortiguet, politologue, était avec nous pour ce débat. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. En vous souhaitant une très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Fereydoun Monchiri, poète de l'amour, de la paix et de l'amitié, et au service de l'humanité. Viens avec moi pleurer sur l'homme d'aujourd'hui. Le pauvre, il a perdu le sens de l'amour. De la musique avant toute chose, disait alors Verlaine. Aujourd'hui, c'est encore le degré de musicalité qui fait en grande partie la force du poème. La musique est le moule qui confère sa forme à la parole, qui démultiplie le verbe, qui l'habille de ses belles notes, qui à voix haute séduit l'oreille et l'esprit à voix basse. Telle est la poésie moshirienne. On l'écoute, on l'entend, on la fredonne à l'infini. Poète, chansonnier populaire de la langue persane, Feridun Moshiri est né en 1927 à Téhéran. Sa famille était connue pour avoir un héritage de poésie et alors que son père occupait des postes administratifs, ses années scolaires étaient partagées entre Téhéran et Mashhad. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la famille s'installe à Téhéran et le jeune Moshiri poursuit ses études à Darul Fonoun, puis au lycée Adib. Au cours de ces années, ses premiers poèmes parurent dans des revues progressistes telles que « Il en est mort ». Ce fut le début d'une carrière dans le journalisme littéraire qui dura plus de 30 ans. En 1946, Moshiri a rejoint le département iranien des télécommunications où il a servi jusqu'à sa retraite. Avant d'être poète, Feridun Moshiri était journaliste et cette profession l'a aidé à se familiariser avec les érudits influents de la langue et de la littérature persane tels que Allame Dehoda, Moïn et Ibrahim Pourdavoud. Son premier recueil, Assoiffé de la tempête, voit le jour en 1955. Paraissent ensuite Le péché de la mer en 1956, Le nuage et la ruelle en 1967 et Croix le printemps en 1968. Et Croix le printemps en 1968. Autant de recueils, à la fois poèmes et réflexions, sur le sens de la vie et de la mort, sur l'amour et la force du destin. La façon dont Moshiri a été pris est l'objectif final des créateurs du style libre et de la poésie. Cela signifie qu'il a été accepté d'utiliser les rimes de manière appropriée et rationnelle et de les combiner avec un nouveau regard sur la nature, les choses, les personnes qui l'entourent, ainsi qu'un sentiment et une sensation délicat pour présenter ses poèmes avec un trait caractéristique. Les réflexions sur le sentiment de l'homme envers sa vie et sa mort, son amour et sa destinée, son environnement social et l'univers tout entier, ont été le thème principal des poèmes sélectionnés de Croire le printemps. Du silence, publié en 1978, évoque les souffrances de l'homme moderne au sein de la grande ville. Ses derniers recueils s'intitulent « Aux pluies », publié en 1988, et « Ahura », Tu es le maître brillant en 2001, un an après son décès, lesquels célèbrent le culte de l'amitié et de la paix. Moshiri est surtout connu comme conciliateur de la poésie persane classique d'un côté, avec la nouvelle poésie initiée par Nima Yushij de l'autre côté. L'une des contributions majeures de la poésie de Moshiri, selon certains observateurs, est l'élargissement de la portée sociale et géographique de la littérature persane moderne. Moshiri était un véritable écrivain, un chercheur, un grand éditeur et chroniqueur pour les pages de poésie de nombreux magazines et journaux. Moshiri souffrait de la leucémie et d'insuffisance rénale depuis près de 5 ans et il est finalement décédé aux premières heures du mardi 24 octobre 2000 à l'hôpital Téhéran Clinique. L'amour occupe une place privilégiée dans l'œuvre de Moshiri, ainsi que le thème de la nature. Cette dernière fournit le cadre de la plupart des textes de l'auteur, qui invite avec insistance l'homme d'aujourd'hui à entrer en communion avec elle. Et maintenant, quelques poèmes de Feridun Moshiri. Dis-moi où est l'oiseau du soleil. Prisonnier je suis de l'éternelle nuit noire. Éclaire-moi à travers les barreaux de la fenêtre, au creux de la brise matinale, en plein milieu des champs. Je voulais m'épanouir comme un arbre, sans crainte de la hache. Par mes mains élevées vers le ciel pur, je voulais prier pour le soleil, la terre, l'eau et l'air. Je voulais que les moineaux chantent sur mes épaules. verdoyant et robuste, et fier et florissant. Je voulais ramener la fierté, la verdure sur ce champ triste. Je voulais ramener la verdure sur ce champ sec et triste. Ah, oiseau du soleil, des 100 000 bourgeons, pas un seul a fleuri. La main de la brise n'a guère connu mon corps. Les moineaux n'ont plus traversé ce pays. Ces belles feuilles colorées se fanèrent dans la poussière. Et ce chant sec et triste désespéra du printemps. Ah, oiseau du soleil, emporte-moi vers le pays où, comme le vent, je peux libre gaiement aller où je désire. Je suis le moineau du jardin d'amitié qui s'est brisé les ailes. Combien de temps dans ce désert cacher sa tête sous le plumage. Emporte-moi vers les prairies lointaines où je trouverai un arbre pour entamer mon chant. Je brûle de m'envoler. Quand trouvais-je ma campagne de chant? Mais dis-moi où se trouve le lieu où sous tes ailes, au creux de l'univers, un instant à mon gré, je déploierai mes ailes, où je pourrai pleurer, où je pourrai chanter. La ruelle. Sans toi, sous le clair de lune, je repassais cette ruelle. Oeil, je devins, te cherchant corps et âme. De la coupe de mon être déborda le désir de te voir. Je redevins cet amant exalté d'autrefois. Au fond de mon cœur brilla la fleur de ta mémoire. Surit le jardin d'une centaine de souvenirs. S'exhala l'arôme d'une centaine de souvenirs. Je me souvins de la nuit où nous passâmes à deux la ruelle. Nous ouvrâmes nos ailes, nous promenant dans ce coin tranquille. Nous nous assîmes un instant au bord de ce ruisseau. Tous les mystères du monde étaient dans tes yeux noirs. Moi, j'étais ébloui en les contemplant. Claire était la nuit, serein était le ciel. Le bonheur me riait, dompté était le temps. Et les épis de lune baignaient dans l'eau. Les branches s'élançaient vers le clair de lune. La nuit, le chant, la fleur et la pierre étaient ivres du chant du rossignol. Je me rappelais tes paroles. Évite cet amour. Regarde un instant cette eau qui court. L'eau est le miroir de l'amour qui passe. Ô toi, dans le regard de mon regard s'émeut. N'aie crainte, car demain, d'une autre, tu seras l'amant. Pour oublier mon amour, quitte cette ville quelque temps. Je ne saurais éviter ton amour, te dis-je, ni te quitter pour m'en aller au loin. Le premier jour où, vers toi, mon cœur prit son envol, pour se poser comme une colombe au bord de ton toit, tu me lanças des pierres, mais je n'ai pas fui, ni rompu avec toi. Je me retis que toi, tes chasseurs et moi, la gazelle des champs. Je cherchais, recherchais pour tomber dans ton piège. Je ne saurais éviter ton amour, ni te quitter pour m'en aller au loin. Une goutte de larmes se détacha d'une branche. L'oiseau de nuit gémit de douleur et s'enfuit. Une larme frémit dans ton œil. La lune ria de ton amour. Je me souvins que je n'entendis plus de réponse de ta part. Je me noyais dans le chagrin. Je n'ai pas fui, ni rompu avec toi. Dans les ténèbres du chagrin, cette nuit passa, et d'autres avec. Tu ne t'ennuies plus de ton triste amant, et de cette ruelle, jamais plus tu ne passes.
Thank you.